Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements informés entre autres. Ouverture de la Constitution est conforme au thème de sa visite en Indonésie, a dit le pape François. L'ambassadeur britannique était heureux de rencontrer le pape François en Indonésie. Nécessite un investissement de 14,2 milliards de dollars américains pour augmenter 8,2 gigawatts d'électricité EBT. Ministre de la Communication et de l'Information de la République d'Indonésie convient que la cyberforce est nécessaire car c'est une chose cruciale. Assemblée consultative populaire de la République d'Indonésie, MPRI, déclare que la présence du pape François montre que l'Indonésie est tolérante. Et dizaines de pays ouvrent une coopération touristique à Makassar. Mon cher auditeur, voici les nouvelles incomplètes. Le leader des catholiques du monde, qui est également chef de l'État au Vatican, le pape François a déclaré que les principes contenus dans Bhinneka Tunggal Ika et le préambule de la Constitution de 1945 étaient conformes à la devise de sa visite en Indonésie. Citant Antara, le pape, dans un message prononcé mercredi au palais d'État Jakarta, a expliqué que l'Église catholique ouvre pour servir le bien commun et souhaite renforcer la coopération avec diverses institutions étatiques et d'autres acteurs de la société civile, ainsi d'encourager la formation d'une structure sociale plus équilibrée et assurer une répartition plus efficace et plus équitable de l'aide sociale. À cet égard, le pape a ensuite évoqué le préambule de la Constitution de la République d'Indonésie de 1945, qui, selon lui, offre un aperçu précieux de la voie choisie par une Indonésie démocratique et indépendante. Le pape a déclaré que Bhinneka Tunggal Ika, la justice sociale et la bénédiction divine sont les principes essentiels qui inspirent et guident l'ordre social. L'ambassadeur britannique en Indonésie, Dominic Germain, a admis qu'il était très heureux de pouvoir rencontrer et écouter les messages du pape François lors de sa visite au Palais d'État de Jakarta mercredi concernant la diversité en Indonésie ainsi que le message du président Joko Widodo concernant Bhinneka Tunggal Ika. Germain est personnellement ambassadeur britannique en Indonésie depuis 2023. Il considère la diversité en Indonésie comme extraordinaire. L'Indonésie, il a dit, a une identité forte pour pouvoir profiter de toute la diversité qui existe. Le chef des catholiques du monde et également chef de l'État du Vatican, le pape François a effectué mercredi matin une visite d'État au palais présidentiel de Jakarta. Il a été accueilli lors d'une cérémonie d'État par le président Joko Widodo et présenté au président élu de la République d'Indonésie, Prabowo Subianto, et à un certain nombre de ministres du cabinet indonésien avancé. Le pape a ensuite eu un dialogue avec le président Joko Widodo lors d'une réunion débat dans la véranda derrière le palais Merdeka. En outre, le président Joko Widodo a invité le pape à rencontrer des représentants du gouvernement, des chefs d'institutions, du corps diplomatique et des personnalités publiques au palais d'État. Lors de la réunion au palais d'État, Joko Widodo et le pape ont tous deux délivré ouvertement des messages. Le ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales de la République d'Indonésie, ESDM-RI, a déclaré que l'Indonésie a besoin d'un investissement de 14,2 milliards de dollars américains d'ici 2025 pour augmenter la capacité de production d'électricité des énergies renouvelables, EBT, à 8,2 gigawatts. La directrice générale des énergies nouvelles, renouvelables et de conservation de l'énergie, EBTKE, Enya Listiani Dewi, a été citée mercredi par Antara Jakarta, disant qu'avec un investissement aussi important, l'Indonésie pourrait augmenter son mix d'énergie renouvelable l'année prochaine de 13% à 21%. Enya a expliqué que plusieurs sources d'énergie renouvelable en Indonésie ont le potentiel d'être suffisantes et abondantes pour être utilisées comme source d'électricité, à savoir 3294 gigawatts de diesel, 155 gigawatts d'énergie éolienne, 95 gigawatts d'eau, 63 gigawatts de courants océaniques, 57 gigawatts de biocarburants et 23 gigawatts d'énergie géothermique. Selon elle, son parti a également proposé aux investisseurs des sources d'énergie géothermique qui ont un grand potentiel et joue un rôle important dans la réalisation de zéro émission de carbone. Le gouvernement indonésien prévoit d'offrir 5 zones de travaux géothermiques en 2025 dans le cadre de l'enquête préliminaire et de l'exploration PSPE, à savoir le Mont Lawu, Sipoholo Riaria, Chubadak Panti, Telaga Ranu et Wapsalit. Le ministère de la Communication et de l'Information de la République d'Indonésie, Menkominfo RI Budi Ari Setiadi, a convenu que la formation de la cyberforce comme quatrième dimension au sein de l'Armée nationale indonésienne, TNI, est nécessaire car il s'agit d'une question cruciale liée à la défense nationale. Selon Antara, Budi a complexe parlementaire de Jakarta a souligné mercredi que l'Indonésie, en tant que grand pays, avait besoin d'une cyberdéfense solide. Auparavant, le commandant général du TNI, Agus Subianto, avait admis que son parti avait reçu l'ordre du président Joko Widodo de former la Cyber Force en tant que quatrième dimension de l'institution du TNI. Il a déclaré qu'actuellement le TNI dispose déjà d'une cyberunité. Selon lui, l'unité est très dépendante des capacités en ressources humaines. le chef d'état-major de l'armée indonésienne, KSAD, le général Maruli Simanjuntak, a discuté de la coopération dans le domaine de la gestion des catastrophes avec le chef d'état-major de la force d'autodéfense terrestre japonaise, le général Yasunori Morishita, lors d'une réunion au quartier général de l'armée, Jakarta, mercredi, dans la mission officielle du TNI, rapportée par Antara, il a été expliqué que les deux hommes avaient discuté de coopération dans les exercices de gestion des catastrophes, en particulier les catastrophes liées aux tsunamis et aux tremblements de terre. Les deux hommes envisagent même d'organiser une formation conjointe pour améliorer les capacités de gestion des catastrophes de chaque personnel. En dehors de cela, Maruli espère également que cette réunion pourra renforcer les relations bilatérales entre l'Indonésie et le Japon. Maruli a également évalué que les relations bilatérales entre l'Indonésie et le Japon étaient bien établies, en particulier lorsque l'armée japonaise était impliqué dans le Super Garuda Shield 2024 à Puslatpur, Tenny, Batu Raja, sud de Sumatra, il y a quelque temps. Le président de l'Assemblée consultative populaire de la République d'Indonésie, MPR-RI, Bambang Susatyo, a déclaré que la présence du leader des catholiques du monde, qui est également chef de l'État au Vatican, le pape François, est un honneur et montre également que l'Indonésie est un pays tolérant. C'est ce qu'a déclaré Bambang après avoir accompagné le président indonésien Joko Widodo ainsi que les chefs d'autres hautes institutions de l'État pour recevoir le pape François au palais d'État de Jakarta mercredi. Le président de MPR-RI a également déclaré que la question de la modération religieuse est devenue un problème mondial qui découle de la pression exercée sur la liberté religieuse en raison de l'intolérance. Il a déclaré que la nation indonésienne elle-même était une nation pluraliste depuis sa création. Cela a été marqué par la reconnaissance de 6 religions en Indonésie et de dizaines de croyances religieuses. Cependant, il a expliqué que la modération religieuse ne signifie pas ignorer les enseignements des valeurs religieuses, car selon lui, les vraies valeurs religieuses apprennent à entretenir des relations amicales harmonieuses et à respecter la dignité humaine. Des dizaines de pays de l'Asie du Sud-Est à l'Europe étaient présents pour ouvrir des opportunités de coopération en matière de voyage avec divers bureaux d'agents de voyage de la ville de Makassar à travers l'exposition d'échanges touristiques International Travel Mart qui s'est tenue mercredi dans la ville de Makassar. Les pays Philippines, le Japon, la Chine, la Corée du Sud, la Turquie, l'Inde, Dubaï, l'Australie, l'Europe, la Jordanie et d'autres. Le président de l'association indonésienne des voyages à Sita de Sulawesi du Sud, Didi Manaba à Makassar, a apprécié mercredi le marché inter-entreprises pour développer le tourisme émetteur non seulement dans le sud de Sulawesi, mais également dans l'est de l'Indonésie. Didi a déclaré que cette activité était la plus grande exposition de voyage jamais présentée dans la ville de Makassar, réunissant 80 acteurs du voyage du monde entier, y compris des acteurs nationaux comme Bali et Labuan Bajo. À cette occasion, au moins 170 agents de voyage de la ville de Makassar étaient présents pour développer la coopération en matière de voyage touristique vers divers pays. Bon, chers auditeurs, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui.
Sembuhkan kami, Angkasa. Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'accueil diplomatique et en pour le titre. L'ambassade d'Indonésie à Bandar Seri Begawan fait la promotion des délices culinaires indonésiens. L'ambassade d'Indonésie à Bandar Seri Begawan a collaboré avec Acharaki pour promouvoir les délices culinaires indonésiens lors de l'événement The Wonderful Indonesia Flavor 2024 à l'hôtel international Rizkun, Bandar Seri Begawan, le 30 et 31 août. Selon une déclaration écrite de l'ambassade d'Indonésie à Bandar Seri Begawan, lundi 9 février, le gouvernement indonésien fait une promotion agressive de la cuisine indonésienne à l'étranger sur le thème « L'Indonésie pimente le monde ». L'objectif du programme est d'augmenter la valeur des exportations d'épices indonésiennes à 31 billions de rupiah ou 2 milliards de dollars américains. En plus d'augmenter la valeur des exportations d'épices indonésiennes à l'étranger, le gouvernement indonésien souhaite également créer 4 000 restaurants indonésiens à l'étranger par le biais de promotions culinaires. Le représentant en chef adjoint de l'ambassade d'Indonésie à Bandar Seri Begawan, Irwan Iding, espère que les restaurants indonésiens à l'étranger serviront non seulement des plats typiques de l'Indonésie, mais apporteront également la diplomatie culinaire indonésienne pour améliorer les relations entre les nations et leurs peuples. La nourriture typique de l'Indonésie servie lors de l'événement comprenait du rendang, des boulettes de viande, du riz frit, kecombrang, du satay lilit, du poulet betutu, du dendeng batokok, du martabak d'Aceh et du brus collation du marché préparé par des chefs indonésiens. En plus de promouvoir les délices culinaires indonésiens, l'événement également présentait la phytothérapie typique de l'Indonésie à travers découvrir la phytothérapie traditionnelle indonésienne du producteur de la phytothérapie Acharaki. Il a été déclaré qu'Acharaki avait pour objectif principal de changer la perception des boissons à base de plantes, passant des boissons traditionnelles et anciennes aux boissons santé conformes aux normes internationales. L'ambassade d'Indonésie à Bandar Seri Begawan elle-même a organisé l'exposition du halal de l'Indonésie en juin 2024 et le festival de la gastronomie indonésienne en juillet 2024. C'est l'auditeur, c'était l'accueil diplomatique pour ce soir. Bonsoir, c'est l'auditeur. Voici l'histoire d'aujourd'hui qui va commencer avec l'événement du 5 septembre 1945, Yogyakarta, région de la République d'Indonésie. Le 5 septembre 1945, le Sultan Hamengkubuwono IX de Yogyakarta et Pakualam VIII publièrent un édit déclarant que la région de Yogyakarta faisait partie du territoire de la République d'Indonésie. Ce décret, connu sous le nom de Mandat du 5 septembre 1945, est également l'une des bases du statut spécial de la région spéciale de Yogyakarta au sein de la République d'Indonésie. Passons maintenant à l'événement du 5 septembre 2005, accident d'avion de Mandal Airlines à Medan. Le vol RI-091 de Mandal Airlines en Boeing 737-200 appartenant à Mandal Airlines s'est écrasé dans l'occasion de Padang Bulan à Medan le 5 septembre 2005. Cet accident s'est produit lorsque l'avion décollait de l'aéroport colonial de Medan. Le vol Medan-Jakarta transportait 117 personnes, se composant de 112 passagers et de 5 membres d'équipage. Il y a eu 5 passagers qui sont morts et 49 personnes au sol ont également été victimes. Au moins 17 passagers seraient saufs. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement sur la commémoration de la Journée internationale de la charité. La Journée internationale de la charité a été déclarée pour la première fois par l'Assemblée générale des Nations unies en 2012. L'objectif principal de la Journée internationale de la charité est de sensibiliser et de fournir une plateforme commune pour les activités caritatives du monde entier, pour les individus, les organisations caritatives, les philanthropes et les bénévoles. Le 5 septembre a été choisi en hommage à Mère Teresa, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1979. Mère Teresa a fondé les missionnaires de la charité et s'est consacrée à aider les pauvres et les personnes atteintes du VIH-Sida et de la tuberculose. Mère Teresa est décédée le 5 septembre 1997 à l'âge de 87 ans. Cette date a ensuite été désignée comme internationale de la charité. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Chers auditeurs, c'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici mon Indonésie ayant pour le titre. Le BRGM a déclaré que le règlement gouvernemental sur les mangroves clarifierait la gestion dans la zone APL. L'Agence de restauration de la troupe et des mangroves, BRGM, a déclaré que le projet de règlement gouvernemental concernant la protection des mangroves n'attend que d'être approuvé et qu'il réglementera la gestion de l'écosystème dans les autres zones d'utilisation APL. Le chef du BRGM, Hartono, lors d'une réunion de travail avec la commission 4 du Conseil représentatif du peuple indonésien à Jakarta, a déclaré lundi que le règlement gouvernemental lui-même était une réglementation nécessaire pour accélérer la réhabilitation des mangroves, en particulier celles situées sur les terres de l'APL. Hartono a expliqué que sur l'objectif de 600 000 hectares donnés au BRGM, 200 000 hectares étaient consacrés aux activités de plantation et les 400 000 hectares restants entretenaient des zones de mangroves encore en bon état. On espère que ce règlement gouvernemental pourra être une solution pour la réhabilitation des mangroves dans la zone APL. Comme tenu actuellement, il n'y a pas de clarté quant à savoir qui est responsable de la protection et de la réhabilitation des mangroves dans la zone APL. Auparavant, adjoint au BRGM pour la planification et l'évaluation, Satyawan Pudiatmoko a souligné l'importance de la réglementation régissant la gestion des écosystèmes de mangroves. Un problème se pose lorsque d'autres zones d'utilisation APL sont désignées comme fonctions protégées, ce qui limitera les droits des propriétaires de mangroves à les utiliser. Pour cette raison, des réglementations au niveau du règlement gouvernemental sont nécessaires pour protéger et réglementer la gestion des mangroves à l'intérieur et à l'extérieur des zones forestières. Selon les données de la carte nationale des mangroves 2023, il existe un total de 3,44 millions d'hectares de mangroves dans le pays, soit 23% du total mondial de mangroves qui atteint 14,8 millions d'hectares. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Biarkan rembulan menari.
Voilà, c'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
Situé sur la péninsule de Minahasa et directement adjacent à la baie de Tomini au sud, il n'est pas surprenant que la province de Gorontalo regorge des produits marquants Zabundang. Ces produits de la mer sont transformés par la population locale en une variété de délicieux délices culinaires. Disons que l'endo est perkedel naik, de la poisson naik. Le perkedel lui-même n'est pas réellement un aliment de Gorontalo. Le thème perkedel vient d'une boulette de viande typiquement hollandaise appelée frikadelle. La frikadelle est fabriquée à partir de viande hachée, écrasée puis frite, tandis qu'en Indonésie, le perkedel est fabriqué à partir de pommes de terre auxquelles on ajoute parfois seulement un peu de viande hachée ou de corned beef, voire même pas de viande du tout. Sejurita, le perkedel naik sont fabriqués à partir de poisson naik. Le poisson naik est également connu sous le nom de poisson duo. Sa taille est très petite, environ 5 cm de long. Le poisson duo est célèbre pour son goût délicieux et savoureux. Pour fabriquer le poisson naik est mélangé avec de la farine de blé, de l'oignon, de l'ail et des œufs de poule. Le mélange est ensuite frit. Les perkedel naik sont tangguh si savoureux et croustillant. Habituellement consommés avec du riz chaud et de la sauce chili rica-rica. En plus d'être délicieux, ce plat culinaire est riche en bienfaits car le poisson naik est riche en protéines et en calcium. Ce délice culinaire est facile à trouver dans divers restaurants de Gorontalo. Le prix est relativement bon marché, environ 1000 à 2000 rupiah par pièce. C'est Jurita, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À demain!
Langit tinggi. Of Indonesia.
Halo pagi yang indah, dengarkanlah sebentar saja. Sudah kurencanakan hari ini, aku yang punya.
Serge Olitar, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter la technologie TRIGRS pour réduire le risque de glissement de terrain. Plusieurs régions d'Indonésie présentent un risque assez élevé de glissement de terrain. Face à cette situation, l'Agence nationale de recherche et d'innovation, ou BRIN, a innové en introduisant la technologie du système d'information de détection des sols, TRIGRS, dans le but de réduire le risque de glissement de terrain. TRIGRS est une application permettant de déterminer les paramètres qui influencent la stabilité des peintes afin que les données puissent être utilisées pour déterminer la vulnérabilité du sol dans une zone. TRIGRS est un développement du logiciel créé par l'Institut géologique des États-Unis qui a ensuite été développé en collaboration avec BRIN. Grâce à cette technologie avancée, TRIGRS a réussi à montrer l'influence créée par l'intensité des précipitations sur la stabilité des pentes. TRIGRS est considéré comme assez bon pour prédire la stabilité des pentes dû à la pluie dans les zones sujettes au glissement de terrain. C'est parce que les données d'inventaire des glissements de terrain sont un facteur très influent dans le succès du modèle TRIGRS dans le processus de validation du modèle. Cette technologie est réellement les zones sujettes au glissement de terrain à pouvoir s'atténuer et se préparer avant qu'une catastrophe ne survienne. BRIN collabore actuellement avec des parties concernées dans plusieurs zones sujettes au glissement de terrain pour pouvoir mettre en œuvre le TRIGRS comme forme d'atténuation des glissements de terrain. On espère que l'application de cette dernière technologie pourra réduire le nombre ou le potentiel de victimes et les dommages dus au glissement de terrain. Chers amis, c'était la rubrique Indonésie en couleur de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Generasi pemberani, ceramah nunggu
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncong, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La voix de l'Indonésie au monde.
C'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie et de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de magazine musical. Et cette fois, je vais vous présenter une chanson du groupe de musique Shaden, avec moi Audrey. Chers auditeurs, le groupe de Shaden, formé en 1998, est dirigé par Nuri, comme chanteuse, Abrar, batteriste, et Rijal, guitariste. Ce groupe qui porte des éléments pop sort souvent des œuvres sur le thème de jeunes histoires d'amour. Le premier album de Shaden, intitulé Malu, est sorti en 1998. Cependant, le nom de Shaden est devenu connu du public après la sortie de la chanson Dunia Belum Berakhir. Cette chanson figure sur l'album du même titre sorti en 2000. Dunia Belum Berakhir raconte l'histoire d'une relation amoureuse d'un couple qui se termine parce que l'un des deux rompt la relation. Cependant, cette condition ne signifie pas nécessairement que le monde de la personne laissée derrière lui prend fin. Bon, chers auditeurs, voici Shaden va chanter une chanson intitulée Dunia Belum Berakhir. Bonne écoute.
Dunia belum berakhir. Bila kau putuskan aku, masih banyak teman-temanku di sini menemaniku. Dunia belum berakhir. Bila kau putuskan
Bonjour, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voicelavoisde.com. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.